chercheur oriental. J'ai réfuté totalement cette
histoire. Moi, c'est une de vos combattants, aucun langage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la clinique de maîtrise des vents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Dans une déclaration du 15 juin dernier, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, a informé le public qu'il y a des cas de divagation des éléphants dans certaines parties du pays pendant cette période. L'ICCN signale notamment qu'il s'agit des mouvements saisonniers connus pour chercher leur nourriture. Selon les habitants, ces éléphants ont ravagé des champs et des étangs piscicoles dans plusieurs villages. Cette affaire relance les débats sur la politique des gestion des parcs nationaux et des aires protégées à travers le pays. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-899-6315 pour vous joindre en direct dans cet échange. Mais les débats sont aussi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Héritier Sylvia Kala est à la mise en onde de cette émission réalisée coordonnée par J.R. Lungembo et Pierrot et la Mégie vous la présente sous la supervision de Martin Seboujango fidèle. Les auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Que ce soit dans l'ancienne province de Bandundu ou dans la province de Tanganyika, la population a été confrontée dernièrement à des cas des éléphants en divagation. La population qui s'est plainte et ces animaux ont détruit sur leur passage, que ce soit les champs, les étangs piscicoles, du côté de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. On signale à la population que ces éléphants font des mouvements saisonniers en fonction des recherches de leur nature, de leur nourriture. Et cela relance les débats sur les aires protégées, les parcs nationaux, les limites de la population dans l'exploitation, dans l'occupation de ces aires, mais aussi la responsabilité de l'État dans la protection de la population face soit à l'occupation des aires réservées aux espèces rares et espèces protégées. C'est le débat au centre de notre émission. Nous allons tout à l'heure recevoir un délégué de l'Institut congolais pour la conservation de la nature pour en parler. Mais le débat a été engagé depuis hier soir sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs où Patrick Mutombo, qui est à Kananga, a dit que pour moi, la faute revient à l'ICCN qui devrait avertir la population avant le début de cette saison pour dire qu'il fait attention car un jour, les éléphants pourront faire passer par votre village ou les terrains que vous avez utilisés pour faire des champs appartiennent bien sûr aux puces qui pourront un jour ou l'autre utiliser les éléphants. C'est l'ICCN qui devrait faire ce travail en amont. Innocent Armand Kondoli de Kinshasa lui dit ceci, qui de l'homme ou de l'éléphant viole le territoire de l'autre? Il y a lieu que l'Institut congolais pour la conservation de la nature dise à la population où se trouvent les limites de leurs occupations et où se trouvent les limites effectivement des aires qui sont protégées, où ces animaux pourront un jour recourir pour leur nourriture. Tout cela devait être fait en amont. Voilà, nous avons Dr Richard qui est ici à Kinshasa. Merci de nous avoir contacté pour votre participation dans cet échange. Docteur, bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot, bonjour aux auditeurs et à l'invité qui est en route.
On vous écoute, docteur.
Oui, vous savez que les éléphants font partie de ce qu'on appelle la biodiversité. Et vous savez aussi que la biodiversité est source de vie pour l'homme, grâce à ses multiples avantages. Alors, ce qui se passe avec la population là où les éléphants passent, c'est un problème de l'information. La communauté n'a pas d'information. La communauté a besoin de vivre en extension, comme on dit, dans ses activités. C'est-à-dire quelqu'un qui a un hectare de champ voudrait, dans 2-3 ans, en avoir 10. Alors, donc, nous sommes restés au niveau primitif dans la gestion de la biodiversité, malgré tous les blablas que nous disons. Moi, je dis ça pourquoi? C'est parce qu'on pouvait, par exemple, faire le reboisement par objectif pour canaliser, comme je peux dire, le parcours des éléphants de façon saisonnière. Mais vous verrez que rien n'a été fait. Rien n'est fait pour qu'on se dise, bon, comme les éléphants prennent cette route, comme nous, nous avons des activités, est-ce que de façon préventive, on ne peut pas mettre des essences de croissance rapide sur leur parcours pour qu'ils s'arrêtent qu'au niveau de leur parcours, au lieu qu'ils puissent déborder et aller dépasser les champs, etc. Donc nous n'avons pas fait des pas en avant. Nous sommes restés à gérer la nature telle que Dieu nous l'a donnée et nous nous contentons de ça. On n'avance pas. Pourtant, d'autres peuples sont allés un peu plus loin. Et nous qui avons cette richesse-là, nous marquons le pas. C'est ça le grand problème. Donc, l'éducation, l'information et la communication en matière de la gestion de l'environnement par objectif n'est pas descendue au niveau de la communauté. Tout ça est resté au niveau des universités. Là, on diplôme les gens pour qu'ils aillent chercher du travail et non pour qu'ils encadrent la communauté. Voilà mon
Docteur, Charles, vous avez quand même évoqué cette notion des reboisements par objectif. Vous pensez aujourd'hui que c'est là demande aussi des bons moyens. Faudrait-il attendre auprès de l'État où on peut élargir au niveau du partenariat public et privé pour résoudre cette question?
Oui, est-ce que les bons moyens ou ça demande d'abord la volonté? Parce que si les gens disent, nous pouvons mettre sur le chemin que prennent les éléphants, ok, nous mettons volontairement des paniers à huile parce qu'ils ont besoin de ça. Ça demandera quels moyens? Lorsque la communauté fait le moustapha, comme nous savons, jette les ndika ou les noix de les noix palmistes, voilà, c'est facile. Mais pour mettre ça sur le chemin des éléphants qui passeront dans 2-3 ans, est-ce que ça demande quels moyens? Le premier moyen, c'est de savoir. Le deuxième, c'est la volonté. Le troisième moyen, c'est la mobilisation de la communauté par le chef de la communauté qui est là. Le chef du quartier, le chef de la commune, qu'est-ce qu'il a comme bagage dans la transhumance des éléphants? C'est ça aussi le problème.
Merci, docteur.
Donc, c'est moyen, donc les gens vont regarder Banque mondiale, etc., etc., endetter la communauté pour que nous ayons des descendants qui vont gérer les dettes.
Ça, c'est important, ce que vous avez dit, Dr. Richard, on doit avoir une vision, les savoir, communiquer cela à la population, parce qu'on sait que dans 2-3 ans, les éléphants pourront encore emprunter cette route. Alors, y aller par les reboisements objectifs, savoir qu'est-ce que les éléphants viennent chercher, et comme ça, on pouvait mobiliser la communauté sans utiliser des gros moyens, et trouver cette barrière naturelle entre la population et les éléphants. Merci beaucoup pour votre point de vue et cette vision du reboisement par objectif qui nous manque parce que vous avez évoqué aussi la question de la volonté du savoir. Merci beaucoup. Élie Lokwa, vous êtes en Bandaka, dans la province de l'Équateur. Bonjour Élie. Élie, vous êtes avec nous, bonjour.
La radio Kapi.
On vous écoute Élie. Oui, voilà, on vous écoute, oui.
D'abord, je remercie et je salue tous les auditeurs de la radio Kapi.
Si vous pouvez arrêter votre radio, votre poste récepteur carrément, parce que là, on a des difficultés à vous suivre. Quand vous êtes en direct, vous écoutez à travers le téléphone portable, vous arrêtez votre radio, s'il vous plaît.
Et voilà, j'ai déjà arrêté la radio. Bon, en fait, les éléphants ont éventuellement leur propre comportement. Il y a aussi les éléments, étant donné que je suis encore étudiant, nous avons réussi le cours de la conservation de la nature. Et les acteurs occupés de faire une causalité pour la divagation des éléphants sont à peu près multiples. Dans un écosystème ou dans un parc bien protégé, il y a des facteurs permettant que les éléphants puissent causer la divagation. Nous avons des facteurs de braconnage aujourd'hui dans nos pays, et surtout dans notre pays endémique, où il y a des facteurs de braconnage. Les braconniers cherchent, en fait, à exploiter illicitement des ressources naturelles de notre pays. Et cela peut aussi occasionner la divagation des éléphants. Nous avons aussi le facteur d'absence alimentaire dans un espace écosystémique. Lorsqu'il y a une carence d'aliments dans un espace écosystémique, les éléphants peuvent aussi occasionner l'immigration pour aller chercher les aliments dans un autre espace. Ça peut aussi occasionner que ces éléphants puissent détruire les champs de la population locale. Nous avons aussi, en fait, le changement des facteurs climatiques. Dans les différentes régions du monde, de survie dans notre pays, lorsqu'il y a un facteur climatique qui diminue, peut-être parce qu'il y a d'autres animaux qui ne vivent que à l'aide des chaleurs. Lorsqu'il n'y a pas de chaleur, ils vont se déplacer pour chercher là où il y a des chaleurs. Et en fait, ce déplacement est aussi dû au changement climatique. Et ils peuvent partir aussi chercher là où il y a peut-être un climat favorable pour eux. Et ce déplacement occasionnerait aussi des attaques très tragiques dans les champs de la communauté locale. Alors, personnellement étant étudiant de la science et écologie, nous avons aussi certaines techniques environnementales permettant à lutter contre la divagation des éléphants dans un écosystème ou dans les parcs. Qu'est-ce que nous devons faire? Je recommanderais à l'autorité de l'Institut national de la conservation nationale de la biodiversité de pouvoir mettre en place une technique stratégique. C'est-à-dire, ils vont faire ceci. La première technique, ils vont d'abord utiliser les armes. Les éco-gardes sont là. Ils vont tirer les balles du cou en air. C'est-à-dire, avec les balles du cou, les animaux et les éléphants seront peut-être craints de pouvoir entendre qu'il y a des balles du cou des armes. Ils vont fuir, ils vont réintégrer la forêt. Tandis que, deuxième piste de solution, il y a une chasse active. Lorsqu'il y a la divagation des éléphants, les conservateurs, ensemble avec les éco-gardes, peuvent faire une chasse administrative permettant à tuer les éléphants que nous appelons les éléphantaux. Ce sont les éléphants parents. Et lorsque les éléphants parents seront morts, les enfants vont aussi réintégrer l'espace de la réserve écosystémique. C'est ça un peu certaines pistes de solutions
qui vont permettre
lutter contre la divagation des éléphants dans un écosystème ou dans un parc protégé.
On vous a suivi, notre invité déjà avec nous dans ce studio, il vous a suivi, on pourra aussi lui demander si c'est la même vision qui est partagée au niveau de l'Institut congolais pour la conservation de la nature autour de cette question, comment elle doit être. Mais dans votre argumentation au début, vous avez dit tout doit être fait en amont au niveau des l'ICSN. Docteur Richard Kitafa le disait tout à l'heure qu'il faut penser à agir d'une manière objective avec un reboisement objectif, cela veut dire 2-3 ans avant, tout en sachant qu'un jour ou l'autre les éléphants pourront passer par ici, et comme ça peut permettre à ce qu'il y ait des barrières naturelles. Merci pour le deux pistes et solutions. Viens ici à Kinshasa. Bienvenue, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je voulais l'inviter et tous les auditeurs de la radio Capi.
Donc, vous êtes tout à bienvenu.
Oui, je salue mon prédécesseur qui vient de terminer en nous donnant un peu tout ce qu'il a réussi comme matière. Tu sais, il vient de confirmer lui-même. Moi, je pense que ça, c'est un problème social direct qui ne concerne pas les termes techniques. Moi qui vous parle, je suis originaire de l'Équateur. Je me rappelle lorsque j'étais enfant, il y a eu des éléphants qui ne sortaient pas du côté du parc et de la Salonga, mais dans mon forêt. Et la solution, c'était comme la carie dentaire. Vous pouvez faire les plaquages des dents, quoi que ce soit, mais la solution, c'est d'enlever la dent lorsque vous avez la carie. Alors, pour le cas de l'espèce, comme les éléphants dévastent déjà nos champs, qui font office directement de nos supermarchés, de nos alimentations au niveau de nos villages, moi, je pense qu'il y a plus de solutions. À l'époque, quand on était enfant, lorsque les éléphants dévastaient les champs et tuaient les gens, l'autorité ayant la conservation de la nature en ses attributions donnait l'ordre d'abattre ces éléphants pour qu'on arrête l'hémorragie en question. Moi, je pense que sur ce cas précis, l'autorité ayant le pouvoir d'ordonner qu'on abatte les éléphants, prennent un arrêté ou quoi que ce soit pour qu'on arrête avec ces mouvements.
Mais bienvenue, messieurs, on s'inscrit dans la même logique actuellement pour dire que l'éléphant, c'est une espèce protégée. Pensez-vous qu'on donne l'ordre qu'il soit abattu? Et d'un côté, comment alors nous allons continuer à gérer l'éléphant comme une espèce protégée, comme Dr. Richard venait de le dire en début de l'émission?
Mais lorsque les espèces protégées commencent à éliminer la personne humaine et les gens, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne sais pas. On protège les éléphants ou on protège les hommes plus que les éléphants?
Je crois que j'ai tout à l'heure sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, il y a aussi un auditeur qui est revenu là-dessus. Je crois qu'il a posé la question de savoir, mais dans ces conditions, qui doit être protégé? Pour lui, il pensait même qu'il faut protéger l'homme qui est un grand animal. Merci aux autres, on va revenir à vous. Je rappelle encore que c'est le 081-890-7315. Comme je le disais, nous recevons dans ce studio M. Jeff Matilanga, qui est le chef du département technique et scientifique à l'Institut congolais pour la conservation de la nature et qui fait office du directeur général pendant ce moment et dans cette émission. Parole aux auditeurs. Monsieur Jeff, bonjour et bienvenue dans notre studio.
Bonjour.
Voilà, et je crois que la question, elle va être abordée d'une manière plus large sur la politique des aires protégées, des parcs nationaux. Revenons d'abord au factuel. C'est cette question des éléphants dans l'ancienne province de Bandundu, dans les Katanga aussi, on en a parlé. Où en sommes-nous aujourd'hui, les dernières informations par rapport à ces éléphants qui ont fait face à la population dernièrement?
Merci, monsieur les journalistes, et nous vous remercions pour nous donner encore cette opportunité afin d'éclairer les lumières de l'opinion. Vous dites qu'en est-il de la situation qui a été vécue en fait au niveau de Malimpankulu, la zone de Malimpankulu et la zone de Kaungula au niveau de la province, l'ancienne province de Bandundu. Ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la situation de Kaungula, je pars des faits, et la direction générale de l'ICSN a été saisie de ce dossier parce qu'il est presque cyclique. Il est presque cyclique en 2014, en 2015 et en 2016. En fait, le directeur général de l'ICSN a été en contact avec les autorités de la province et avec le conservateur chef de site de domaine des chantiers de Sokibula. Il a donné instruction pour qu'on abat en fait l'individu, le chef de troupeau. Et c'est le chef du troupeau, il était déjà grièvement blessé parce qu'ils étaient au nombre de 5 ou 6, et parmi lesquels les éléphants qui provenaient de l'Angola, parce que la zone Kaungula est frontalière à l'Angola, et qu'on a donné instruction pour abattre un individu. Alors, dans la procédure, c'est qu'il fallait abattre l'animal et que les ivoires, ils sont propriétés de l'État congolais, versus en fait le site congolais qui est le gardien des produits et sous-produits de la faune, qui provient soit des abattages, des bords naturels ou alors des saisies ou confiscations. En ce qui concerne celui de Malimpankulu, la situation récente, il y a eu des équipes mixtes qui ont été déployées dans la région et on a essayé un peu de traquer ou bien de refouler les animaux, encadrer les troupeaux qui avaient un effectif qui était autour d'une cinquantaine d'individus. On les a encadrés, mais le problème n'a pas été aussi perçu facilement parce que là-bas, il s'agissait d'un mouvement migratoire de ces pachydermes et que donc les animaux qui étaient devenus agressifs parce qu'ils y rencontraient une résistance et une opposition des chasseurs locaux qui blessaient les animaux et ils étaient devenus très agressifs.
Alors, c'est pourquoi Innocent Armand de Kinshasa a demandé à l'ICSN, dans ces cas, selon la délimitation des aires et des parcs, qui s'est retrouvé sur le territoire de l'autre, dans les deux provinces, ou bien ailleurs, si cela est déjà aussi arrivé dans d'autres provinces. En principe, c'est vous qui gérez la limitation, pour savoir que le parc se limite ici, la population doit être là, mais dans ces cas, qui s'est retrouvé sur le territoire de l'autre?
Ce qu'il faut noter, c'est que l'animal n'a pas de visa, l'animal n'a pas d'identité territoriale liée à une province, à une localité, l'animal... Il est dans son milieu qu'on appelle le milieu naturel. Et que donc, même s'il y a deux aires protégées ou une aire protégée dont les limites chevauchent sur deux provinces ou sur deux étendues de pays limitrophes, en fait, pour l'animal, il n'a pas de visa, il n'a pas d'identité. il revient dans le mécanisme de régulation, de règlements internationaux ou de conventions internationales, c'est qu'il est conseillé, en fait, de, dans une opérationnalité, de créer, par exemple, des réserves qui sont transfrontalières, comme, par exemple, le grand massif de Virunga, où nous avons le parc national de Virunga, et nous avons le parc des volcans au Rwanda, et le comment on appelle ça, le Bwindi National Park à Ouganda. En fait, ça, c'est tout un massif. Donc, les gorilles traversent, soit ils sont à Ouganda, le matin ou le soir, ils sont au Rwanda, ils reviennent au Congo, etc. Donc, il y a des mécanismes opérationnels de gestion de ces grands massifs pour permettre justement de contrôler ou un monitoring de toute cette faune, mais aussi également lutter d'une manière concertée à des facteurs dégradants.
Voilà. Docteur Richard, qui en début d'émission a évoqué cette question apparente de la prévention et de l'éducation de la population, est-ce qu'au niveau de l'ISSN, le travail est-il assez suffisant auprès de toutes ces populations qui vivent à côté des aires protégées, des parcs, pour leur dire, mais attention, voilà, de quel comportement vous devez avoir si jamais un jour vous faites face au déplacement des animaux, qu'ils soient éléphants ou autres, qui sont dans ces aires protégées.
Je suivais les intervenants de tout à l'heure. Merci pour votre question. C'est-à-dire, les intervenants de tout à l'heure oublient une chose. C'est que, l'éléphant est un animal totalement protégé. Et non pas par la loi seulement nationale, c'est-à-dire l'ordonnance numéro 03 relative à la conservation de la nature, mais aussi au niveau des conventions internationales. Ça, c'est un. Et de deux, c'est qu'il y a maintenant des mécanismes opérationnels de gestion des aires protégées. L'ISSN, c'est l'établissement public qui gère en République démocratique du Congo la politique de la gestion des ressources naturelles au sein des aires protégées qu'on appelle parcs nationaux, réserves, jardins botaniques et zoologiques. C'est lui le levier technique. Et que donc, dans ce programme, disons dans la stratégie de gestion, il y a tout un programme qui est consacré en fait à la collaboration avec les communautés vivant en périphérie des aires protégées. Et dans cette stratégie, qu'est-ce qui est édicté? Lorsqu'on se trouve dans un cas concret qui est celui-là, des conflits hommes et animaux, non seulement pas l'éléphant, il y a d'autres, des antilopes ou des babouins, etc., etc. En fait, il y a des solutions proviennent, il y a des solutions opérationnelles. Les solutions opérationnelles, c'est ce dont on intervenait à parler du refoulement. On ne refoule pas d'une manière systématique. Les animaux constituent une structure bien structurée, bien organisée. On vise à refouler le meneur, comme il a dit. Et le meneur, pour ce qui concerne les cas des éléphants, généralement, ce sont des femelles. Et donc, l'éléphant, vous le refoulez, et lorsque vous déstabilisez ou vous refoulez cet animal, pour ce qui concerne l'éléphant, qui est un animal totalement protégé, la loi autorise à l'ISSN de refouler par des techniques qui sont les refoulements, et vous tirez en l'air, et le meneur, en tout cas, il s'enfuit et tout le troupeau de 10 à 15 éléments, il s'est battu. S'il s'agit des dégâts comme ceux qui se sont passés à Kangoula, où l'animal devenait très agressif, l'ISSN, qui est l'établissement public légalement établi et qui a les prérogatives en ce qui concerne cette matière-là, il peut autoriser à titre d'exception d'abattre l'individu qu'on appelle meneur. Parce que lorsque un chef de file il est abattu, en fait, tous les individus se sentent à des sécurités. Ça, c'est la logique plus ou moins naturelle. Et ça réussit pour certains cas. Et l'autre technique, c'est la technique maintenant de gestion, les approches de gestion elles-mêmes. C'est l'aménagement des terroirs. Donc, dans les aires protégées, il y a ce qu'on appelle, en fait, les systèmes de zonage. Vous gérez, vous circonscrivez l'espace en parties qui sont dans la zone tampon où il y a les activités de survie des communautés locales. Et là, la réglementation ou bien les mécanismes réglementaires concertés entre l'ISSN, les services de l'administration des parcs et des communautés, en fait, éditent que les champs ou l'établissement des choix des champs ou des concessions d'élevage ou quelque chose, soit évité dans les couloirs naturels. J'insiste sur le mot naturel. L'éléphant, c'est un des animaux qui est un animal qui est intelligent. Même s'il repart quelques 2 ans ou 3 ans, lié à certains facteurs qui sont liées soit à l'alimentation, soit à des pressions anthropologiques, à des pressions anthropiques, comme le braconnage ou la chasse, en fait, elle va retourner vers sa zone où ils se sentent plus en sécurité. Et que donc, il faut, d'une manière impérative, d'éviter ces couloirs dans les mouvements des éléphants, dans les monitoring des éléphants. Il y a des couloirs qui sont naturels. Donc, que, où que vous soyez, l'éléphant, si ça se situe dans ce couloir, il passera
là-bas.
C'est
ce que l'auditeur a écrit tout à l'heure pour dire, mais est-ce que dans ces provinces, l'ICCN a fait ce travail de dire à la population, et attention, chaque fois, nous avons ces mouvements, ils peuvent revenir, vous avez dit 2014, 2015, ils peuvent aller, ils vont revenir, mais vous aussi, quand vous exploitez, voilà vos limites, et voilà ce que, là où vous ne pouvez pas cultiver, ce travail se fait souvent.
Le travail se fait dans les zones où l'ICCN a les aires protégées. Mais je vous ai dit que l'éléphant n'a pas de limites. Donc, tout animal n'a pas de limites. Donc, il peut être au-delà le home range, ce qu'on appelle le territoire susceptible d'être parcouru par un éléphant. Il peut aller jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres.
Mm-hmm.
Comme par exemple le cas de Kangoula où l'éléphant quitte l'Angola pour traverser sur notre territoire jusqu'au-delà de 50 kilomètres. Et que donc, si l'air protégé, ce n'est pas une tâche seulement du conservateur chef de parc, il doit faire intervenir aussi d'autres services. Et si, par exemple, c'est dans les limites territoriales du conservateur, c'est tout à fait normal que le conservateur édite dans son programme de conservation communautaire, il donne des mesures pour éviter. Mais dans la plupart des cas, en fait, les agriculteurs ou bien les communautés n'acceptent pas. D'autre part, il y a maintenant cette zone qui s'étend au-delà même de les limites territoriales, donc c'est une zone qu'on appelle les zones banales, une forêt peut-être d'exploitation. Mais vous y trouverez en dehors, les éléphants ne se trouvent pas nécessairement dans les parcs nationaux, ils se trouvent aussi dans les zones banales, en fait, par rapport à leur home range, à leur habitat naturel, ils peuvent aller jusqu'à au-delà. Et que là, dans ces moments-là, ça implique les ETB, donc les autorités politico-administratives, où nous avons par exemple le ministère de l'Environnement, la représentation au niveau des territoires, c'est-à-dire ça c'est la supervision, ou alors la coordination provinciale au niveau qui doit prendre en charge et qui doit collaborer avec l'ICCN si c'est en dehors des aires protégées.
Voilà, c'est ce que Patient Paul Ngoï nous dit, il faudrait que cette question est aussi transversale. C'est pas seulement la question de l'ICCN, mais c'est aussi l'ensemble des entités qui, en fait, tous les services qui gèrent les différentes entités. 081-890-6315. Adrien, vous êtes à Kamanga, on va revenir à vous, Barouani à Calibre, et Alphonse à 081-890-6315.
Concapidance, du rythme de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique d'ailleurs, tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au Capidan, le mercredi jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Adrien, vous êtes à Kananga, au Conseil Central, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Et bonjour Pierre Lamengi, bonjour aussi à monsieur l'invité.
On vous écoute Adrien.
Oui, merci de l'opportunité que vous m'offrez une fois de plus Pierre. Bon. Je pense que cette question, contrairement à ce qu'un compatriote a dit, n'est pas transversale. Ça, c'est une question qui va tout droit dans la responsabilité de l'ICCN. Lorsque vous suivez la situation, vous allez donc, j'ai comme l'impression que l'ICCN n'a pas correctement fait son travail vis-à-vis de la population. Et aussi, notre invité doit savoir que l'être humain, c'est l'espèce d'abord le plus protégé de toutes les autres espèces. Parce que lorsque déjà l'être humain se trouve agressé, se trouve dans une insécurité, il y a des mesures prévues pour chercher d'abord à protéger l'être humain. Parce que lorsque nous suivons la situation, ce n'est pas la population qui va vers les éléphants pour le taconnage, pour les chasses en désordre, mais au contraire, ce sont les éléphants qui leur lieu vers la population en dévastant d'abord le champ, donc des paisibles citoyens. Ça, c'est la première leçon. Et puis, deuxièmement, je me dis, pourquoi l'ICCN a toujours été surpris par les événements? Lorsque je prends d'abord le cas pratique
de ce qui s'est passé l'année passée au Madagascar. Il y a une espèce aquatique qui apparaît au moins chaque année pour terroriser, pour menacer la population. Si, donc, de ce côté-là, la population malgache s'était embrouillée pour la première fois, mais cette année, donc, le service spécialisé de ce côté-là a pris toutes les mesures nécessaires aujourd'hui, donc la semaine passée, lorsque cette espèce aquatique venant de l'Afrique du Sud s'est retrouvée encore sur les eaux malgaches, et directement ce service-là, avec ce que donc, l'expérience déjà vécue, a vu comment est-ce qu'il faut sécuriser la population. Mais chez nous, l'UCCM, c'est donc un cas plus. Et l'UCCM, donc, se retrouve toujours sur plus par de tels événements. Vous allez vous rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, bien, parce que même l'invité l'a aussi reconnu que la population de ce coin-là se trouve dans une menace terrible. Là, maintenant, il faut appliquer les dispositions légales, que ce soit, donc, que ce soit le code pénal ou les autres lois du pays. Lorsque l'homme est menacé, même si c'est une espèce protégée comme l'éléphant, la moindre des choses, c'est de faire quoi? C'est d'abattre cet éléphant-là qui cause des troubles. C'est d'abattre, même si c'est 50 éléphants. Lorsqu'on se rend compte que ces éléphants-là sont des dangers permanents vis-à-vis de la population, il faut les abattre lorsqu'on n'a pas les moyens de sécuriser ça. Lorsque l'invité parle de couloir naturel, donc naturel, c'est là que je reviens pour dire que l'UCCM n'a pas fait correctement son travail parce que la population ne sait pas qu'est-ce qu'un couloir naturel. Et aussi, aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, la population ne sait pas transporter vers ce couloir naturel. Mais ce sont ces éléphants-là qui quittent leur lieu naturel pour aller dévaster les champs. Parce que la conséquence, c'est quoi si on ne prend pas garde? Des familles qui pourront frapper ces populations-là. Dans l'entretemps, la population sera obligée de se prendre en charge. Or, il y a déjà un principe, donc une sensibilisation vis-à-vis de la population pour continuer à protéger les espèces protégées, permettez-moi, la tautologie. Maintenant, avec ce qui se passe, c'est comme si on est en train de tourner à rond. C'est comme ça que moi, dans cette affaire, je responsabilise nos amis de l'UCCM qui doivent apprendre et donc à anticiper les choses au lieu d'attendre.
Mais maître Adrien, mais si je reviens à ce que notre invité disait tout à l'heure, l'UCCM a la responsabilité, bien sûr, gère les aires protégées. Et nous avons dit que les éléphants, ils n'ont pas de limites. C'est-à-dire qu'ils peuvent se retrouver en dehors des aires qui sont contrôlées par l'ICSN. Et alors, c'est là où la question de la transversalité se pose. Pour dire qu'il y a d'autres services de l'État qui peuvent collaborer avec l'ICSN pour dégager des pistes de solutions. Parce que là, l'invité l'a dit, il y a des aires protégées, mais l'éléphant n'a pas d'aires protégées en disant des limites. Il peut se retrouver là où il a besoin de la nourriture. Et alors, dans ces cas, vous l'avez dit, c'est pas la population qui est allée vers les éléphants sont venus vers la population. Mais Dr. Richard disait aussi tout à l'heure en début de l'émission que la population, elle a besoin, l'homme a besoin du développement. La plupart des cas, quelqu'un avait utilisé 2 hectares, il dit non, mais je veux faire 7 hectares. Mais curieusement, l'hectare qui suit va se retrouver sur la route ou le passage des éléphants. C'est dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça arrive. Mais du moins, dans votre argumentaire, vous insistez beaucoup sur le rôle que doit jouer l'ICSN dans cette question. Mais la question d'être transversale, on le disait tout à l'heure, c'est par rapport à d'autres intervenants de public, au cas où c'est pas une zone couverte par la responsabilité de l'ICSN. Merci beaucoup, maître adjoint de Kananga Barwani. Vous êtes à Kalima, dans la province de Maniema. Bonjour.
Oui, bonjour, la radio Kapi. Bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute, Barwani.
Je suis très inondé de joie de m'avoir accordé la parole. Je suis Barwani, alias Ifosin, Dunia Mukunda Milemba, journaliste de la radio RTK Kalima. Je voulais juste poser une question à l'invité.
Oui, allez-y. Ah, dommage qu'on a perdu Barwani qui voulait bien poser la question à l'invité. Peut-être qu'on pourra voir avec la réalisation si c'est possible. En attendant, nous allons à Arou. Alphonse, bonjour et bienvenue, Alphonse.
Bonjour, Pierrot, bonjour à l'invité et sans oublier tous les auditeurs. Pierrot, de peur que j'oublie, j'ai une question à poser tout d'abord à notre invité.
Oui, allez-y.
C'est que nous avons suivi y a eu beaucoup de dégâts qui ont été l'œuvre de ces animaux-là du parc. Alors, qui sera responsable, qui prendra en charge tous ces dégâts-là? Ça, c'est ma question. Mm-hmm. En fait, Pierrot, par rapport au sujet du jour, j'ai dit ceci. La création des parcs et des aires protégées dans notre pays n'est pas un produit de hasard. Donc, c'est la résistance d'une étude très approfondie sur les plans scientifiques, écologiques, climatiques, sécuritaires, etc. C'est-à-dire que pour conserver la valeur intrinsèque de ces sites, nous allons nous pencher sur les voies et moyens à utiliser pour les protéger davantage parce que ces animaux qui s'y trouvent deviennent une menace pour la population autochtone. Et alors, nous voulons donner tout de suite là des propositions à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Il s'agit premièrement de bien sensibiliser et informer la population autochtone sur les lois des parcs et aires protégées. Deuxièmement et ensuite, bien collaborer avec la dite population afin de bien respecter les cahiers de charges qu'il y en a. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, nous voulons proposer aussi aux autorités du pays ce qui suit. Premièrement, c'est de bien sécuriser les parcs et être protégés en recrutant des gardes de parcs compétents et sérieux, mais aussi et surtout un nombre suffisant d'arrestations pour éviter les braconnages et bien surveiller les mouvements de ces animaux qui sont qualifiés de saisonniers. Et ensuite, c'est de bien payer les gardes de parcs et les doter de moyens et matériels capables de détecter tous les mouvements des animaux dans un laps de temps avant qu'ils causent des dégâts énormes, comme nous l'avons attendu. Et enfin, donc, que le gouvernement impose la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national et afin de bien conserver les patrimoines ou ces patrimoines de faune et flore de grande importance pour notre pays, la RDC, autrement dit. Et un facteur qui était bien géré, c'est un facteur capable de générer des recettes énormes au domaine public. Et s'il y a une parfaite collaboration entre la population autochtone, le gouvernement et l'UNESCO au niveau international. Merci, Pierrot.
Merci beaucoup, Alphonse. Vous posez la question à l'invité, il pourra vous répondre qui doit alors dédommager, parce qu'il y a eu des dégâts, on doit utiliser les termes de dédommagement ou la réparation des dégâts causés par les éléphants, mais ça sont des pistes de solutions que vous avez proposées à l'ICSN. Notre invité pourra nous dire sur ces propositions s'il y a quelque chose déjà qui l'ICSN fait ou il y a des choses à améliorer. Merci beaucoup, Alphonse. Pacifique, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Pacifique. Pacifique, vous êtes avec nous, bonjour. Des petits soucis des lignes avec Pacifique, nous allons à l'ICASI. Maître Ramazani, bonjour maître.
Bonjour monsieur Pierrot, bonjour aux auditeurs de la radio Pacifique.
Merci de nous avoir contacté, on vous écoute maître.
Oui, en fait, je crois que l'invité, lorsqu'il dit que nous voilà, l'éléphant est l'animal le plus protégé, alors je me dis à quoi servirait l'article 16 de la Constitution qui dispose que la vie humaine est sacrée et l'État doit la respecter et la protéger. Est-ce faudrait-il protéger plus l'éléphant ou protéger la personne humaine? Et je me dis, des éléphants comme ça, ce sont des éléphants à abattre, même dans le cadre de légitime défense, parce que les personnes sont tuées par ces animaux. Les personnes perdent leur champ par ces animaux. Et si les personnes cultivent dans des endroits où ces éléphants-là, je crois qu'il est question de pouvoir sensibiliser la population et connaître déjà le passage de ces troupeaux-là pour éviter les drames. Et ici, on peut aller même dans le cadre de la responsabilité de l'État conformément à l'article 260, parce qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par les faits des personnes dont on doit répondre, mais également des choses dont on a sous la garde. C'est que comme il s'agit de parcs, et que ces éléphants-là ou les parcs sont gardés par l'État congolais, c'est que le fait pour ces champs-là d'avoir détruit les champs d'autrui, l'État est responsable de dédommager à ces gens. Et ces éléphants sont directement assimilés même aux animaux domestiques où les gardes peuvent même être poursuivis pour vagabondage des animaux parce qu'ils sont tenus de protéger ces éléphants, également protéger la population et leur bien contre ces éléphants. Le fait déjà d'échouer, d'avoir déjà encadré ces éléphants, c'est qu'ils engagent aussi leurs responsabilités. Et même à l'année 2013, je crois, la province du Katanga, ou soit le gouvernement, avait prévu qu'on puisse délocaliser les personnes qui se trouvaient sur le passage de ces troupeaux, mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait.
Mmh.
Alors ici, il appartient à l'État de pouvoir prendre ses responsabilités à main. Et comment nous pouvons mettre fin définitivement à ce genre de drames? Parce que partout au monde, il y a des éléphants, mais on n'attend pas des drames comme ça se passe ici en République démocratique du Congo. C'est que ce sont des défaillances peut-être du service concerné qui est l'ICCN, et l'ICCN doit prendre des précautions pour que cela ne puisse plus arriver.
Mmh. Peut-être d'ailleurs aussi, il y a des cas, mais peut-être que ça n'a pas été rapporté des fois par les médias, je crois bien. Mais ici, c'est l'anecdote de quelqu'un qui voudrait bien tuer un serpent, mais il se rend compte que le serpent est sur sa calebasse des vins de palme. Or, il n'y a que cette calebasse qu'il a. S'il écrase la calebasse en tuant les serpents, il n'a plus rien comme vin de palme pour aller vendre. C'est juste, ça, vous estimez qu'il, mais qu'est-ce qu'on doit faire là? L'éléphant, c'est une espèce protégée, rare, mais il y a l'homme aussi qui doit être protégé, comme ce qu'on doit faire. La question a été déjà évoquée, mais on pourra y revenir avec notre invité. Merci beaucoup, mais cette question de délocalisation, on pourra demander à l'invité. Mais si au cas où on se rend compte vraiment que l'homme est allé occuper le couloir naturel de l'éléphant, faudrait-il que cet homme puisse libérer le couloir, et quels sont les mécanismes pour faire cela? On va revenir à l'invité juste après Pacifique qui est à Lubumbashi. Bonjour Pacifique.
Bonjour Pierrot, également bonjour à tous les auditeurs.
Alors il serait mieux Pacifique d'arrêter votre poste récepteur ou carrément vous en éloigner. S'il y a des gens qui sont tout autour de vous qui écoutent Radio Capi, il serait mieux de vous mettre un peu de côté. Comme ça, ça va permettre à ce que nous puissions communiquer sans beaucoup de difficultés. On vous écoute.
Ah d'accord, merci beaucoup. Je disais, tout ceci, je ne sais pas comprendre, Pierrot, si on cherche à protéger les animaux plutôt que de protéger les hommes. C'est vraiment une contradiction. Je voudrais poser une question qui me semble être pertinente à notre invité qui est au studio, parce que il est là dans le cadre de l'ICCN. Quelle est la politique nationale que l'ICCN a aujourd'hui pour pouvoir nous dire clairement que voici la politique que nous avons vis-à-vis de la conservation de la nature, et aussi d'être protéger également les hommes que nous sommes. C'est vrai, ils reçoivent autant de financements des partenaires internationaux, et ces financements font quoi exactement? Parce que avec ce financement, on pouvait bel et bien asseoir une très bonne politique de la gestion des parcs, des aires protégées, et la population à un certain moment ne pouvait pas connaître aussi des problèmes comme ça. Alors, si nous allons au Nord Kivu, regardez comment est-ce que ceux qui gèrent les volcans font. Ils vous avisent, ils disent non, parce que nous avons vécu ceci, et en prévision des études que nous avons faites en telle période, attention, la population, nous vous disons que bon, il y a un risque que vous connaissiez encore des laves, par-ci, par-là, et tout ça. Et la population commence déjà à se préparer à ce propos. Aujourd'hui, il y a la pauvre population qui est en train de se rechercher dans sa pauvreté, dans sa misère la plus loin, et qui a labouré au moins 2-3 hectares. On vient tout abîmé par les éléphants. Et qu'est-ce que vous dites? Il faut abattre ces éléphants. C'est ça la meilleure d'abord solution qu'il faut. Quelle est encore la protection qu'on voudra donner à cette population-là, si on n'arrive pas à le faire? À l'époque, moi je m'en souviens quand nous étions encore des petits, des enfants, des chiens enragés, des chats, tout ça, qui au moins à un certain moment devenaient en fait un danger pour la population, on les abattait. Carrément, on les abattait et la population pouvait facilement vivre dans la quiétude.
Voilà. On va évoquer tout ça, oui. Oui, allez-y rapidement, Pacifique, parce que là, il faudrait qu'elle indique
des informations sur la radio et tout et tout. Mm-hmm. Et la misère de cette population-là continue toujours à se faire. Alors, dites-nous un peu là, qu'est-ce que les gens vont faire?
Ça faudrait-il protéger l'homme ou protéger les gens?
Ils vont chercher des calibres 12 et tout ça pour commencer à abattre en désordre ces éléphants. Et qui serait responsable de tout ça?
Voilà, merci. On revient directement à notre invité, M. Jeff Matilanga. Vous avez suivi les uns et les autres. Bon, il se dégage quand même que dans tout ce que j'ai entendu, vous avez aussi noté, ensemble avec moi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, des questions, peut-être qu'on a déjà répondu à certaines d'autres. Il y a quand même un travail de l'information qui doit être fait par l'ICSN pour que la population comprenne effectivement qu'est-ce que l'ICSN fait, qu'est-ce qui doit être fait, c'est l'ICSN, ses limites où, ses moyens, sa politique, voilà, ça je me rends compte que c'est aussi un travail qu'il faudrait faire. Mais du moins, vous avez quand même un mot à dire par rapport à tout ce qui a été dit et questions posées par les auditeurs.
Merci, je crois qu'il est important, merci pour l'intérêt d'abord des auditeurs, mais il est important de donner des argumentaires qui sont aident en fait le public à comprendre le phénomène éléphant, qui non seulement pas une question qui se trouve en République démocratique du Congo, mais c'est un problème qui est presque généralisé dans tout, sur toutes les étendues, en tout cas des aires protégées au monde. Deuxième autre considération, il dit que on peut contrôler un éléphant. Non, un éléphant, ce n'est pas comme le magma. Le magma, c'est-à-dire ici des volcans, qui a fait statique, on peut faire des projections. Mais un éléphant, c'est un être qui est mobile et qui donc, il s'agit d'une masse qui pèse entre 500 et 600, 5000 et 600, 5000 à 6000 kilogrammes qu'il faut mettre les gens pour arrêter cet éléphant lorsqu'il est dans sa vague migratoire. Non. C'est pas aussi facile qu'on les pense. Et que donc, je reviens sur ce que j'ai dit, il y a ce qu'on appelle les limites naturelles des mers protégées. Et ces compétences territoriales, de conserver ces limites jusqu'au-delà de, dans la zone tambo, jusqu'à 50 km, ça c'est la loi qui le dit. Et que donc, au-delà, l'éléphant se déplace parce que son habitat va au-delà de cette superficie. Donc, c'est une question transversale qui demande aussi la collaboration d'autres services. Deuxième autre considération, c'est par rapport maintenant, pour comprendre le phénomène, qu'est-ce qui fait que les éléphants sont en divagation ou migrent comme ça? Il faut les connaître, les raisons, il faut attaquer les causes. Et je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant qui a parlé de la sécurisation. En fait, une des causes de la mobilité des éléphants, c'est les pressions anthropiques, donc la chasse sous toutes ses formes. Femme à l'arbre. Et que donc, il serait intéressant qu'il y ait des efforts par rapport à barrer la route à des pressions liées à la chasse armée. L'éléphant, dans les milieux où il n'y a pas, où le braconnage est sensiblement réduit, vous pouvez approcher jusqu'à l'éléphant à quelques 2-3 mètres. Mais ici, chez nous, non. Lorsque l'éléphant, qui a un potentiel sensationnel assez développé, il sent la présence de l'homme et il migre. Et que donc, lié à des pressions, l'éléphant est obligé d'aller vers les zones où il se sent en sécurité. Deuxième autre considération, c'est maintenant, il a parlé de la sensibilisation, c'est une bonne chose. C'est qu'il migre, lié soit à une saisonnalité alimentaire. Ils migrent, mais ils vont jusqu'à au-delà de l'air protégé. Et que donc, il faut un aspect important que l'ICSN développe dans, j'évite par exemple, celui-là d'aller dans ICSN.org où il peut trouver les documents sur la documentation, sur la politique environnementale à l'RDC et plus particulièrement la conservation des ressources naturelles dans les aires protégées. Et ils disent qu'il n'y a pas de politique. Non, il y a la stratégie nationale pour la conservation de la biodiversité qui édicte en fait la philosophie qui entoure par rapport aux objectifs gouvernementaux en termes de création des aires protégées. Il y a un autre aspect qui est en fait la collaboration avec les services. Il y a un intervenant qui a parlé de la prise en charge. Je crois que l'ICSN fait dans les limites de ses compétences et les limites de ses moyens. Nous avons une soixantaine, plus de 60 aires protégées et que les moyens, nous sommes un État qui est en train de se stabiliser après les périodes de conflits, donc il faut mobiliser suffisamment de moyens. Et donc, pour gérer toutes ces étendues, il n'y a pas que les éléphants, il y a d'autres aspects en fait de protection, de gestion, qui est la sensibilisation, qui est la connaissance même de toute cette biodiversité, qui est pratiquement soit les interventions au profit des communautaires. Mais nous sommes tout à fait d'accord qu'en fait, l'ICSN, il faut enlever des têtes, soit que non, on privilégie d'abord les animaux. Non, c'est comme ça que je vous ai cité des cas d'exception, c'est que lorsque la vie des
population en périphérie des aires protégées est soumise à un danger imminent ou jusqu'à aller à la perte de la vie, en fait, l'ICCN autorise un abattage ciblé des meneurs. En fait, les animaux sont une société bien organisée et lorsque vous attaquez dans le modus operandi, lorsque vous ciblez le meneur,
la troupe part. Mais voilà. Que vous êtes revenu encore sur cette question qui est transversale. On sait aujourd'hui avec l'exploitation forestière, l'exploitation pour les raisons de l'agriculture, l'exploitation minière, est-ce que ces questions sont-ils abordées, discutées avec les autres pour cette pression anthropique sur les éléphants? Parce qu'on sait qu'il y a un besoin aujourd'hui d'octroyer un permis d'exploitation forestière. Est-ce que l'ICCN dit, mais écoutez, là, il y a des éléphants, si vous y mettez votre tronçonneuse, vous allez les obliger à partir. Ici, on ne peut pas avoir une grade d'exploitation minière, par exemple. Toutes ces questions sont-elles abordées avec d'autres ministères? Elles sont abordées parce qu'en fait, l'ICCN, il a la tutelle, en fait, du ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature qui gère, en fait, les concessions forestières qui constituent une direction à part, en fait, au sein du ministère. Donc, il y a, en fait, des actions qui sont transversales dans des concertations ou bien alors dans des ateliers ou des conférences interministérielles ou bien interservices dans le cadre de la politique. Donc, la vulgarisation de la stratégie, la vulgarisation de la loi forestière, en tout cas, ce sont des outils qui sont, en fait, transversaux et qui doivent être partagés pour connaître, en fait, quel rôle ou quel aspect d'intervention doit être mené par tel ou tel autre service public.
Nous allons écouter les deux derniers rapidement. Étienne, vous avez 45 secondes, et Fernando aussi qui est à Manono. Étienne, vous êtes à Guémena, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Bon, malheureusement, puisqu'on a 45 secondes, j'ai suivi avec tout intérêt l'invité, mais ma question est celle de savoir, l'invité vient d'affirmer qu'il y a une politique qui existe. Est-ce que cette politique est-elle efficace? Si oui, pourquoi on n'arrive pas à protéger les éléphants et tant d'autres aires, qui veulent essayer qu'on a au moins 60 aires protégées? Mais aussi, par rapport à cette politique-là, est-ce que les stratégies mises en place pour contenir cette politique-là, est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté de uns et des autres, parce que les éléphants constituent quand même un atout pour notre pays, mais bien dommage que notre pays n'en bénéficie pas.
Voilà, mais là, il faudrait peut-être que la question soit très bien circonscrite. Vous avez dit quels sont les résultats. Est-ce qu'on protège déjà plus de problèmes? Je ne crois pas qu'il y ait assez de problèmes qui ont été reportés à part cette question de ces animaux qui sont passés par ces couloirs où les hommes se sont retrouvés avec leurs champs. Mais du moins, l'invité pourra répondre à cette question parce qu'il va aussi relier la mission qui a été dernièrement effectué par l'ICCN à Istanbul. On va revenir. Ça, c'est pour vous répondre à cette préoccupation de savoir les bilans aujourd'hui de notre conservation de la nature. Ça sera dans la conclusion. Merci. Alors, Fernando, vous êtes à Manono. Rapidement, Fernando, on vous écoute.
Oui, bonjour, monsieur Gio. Moi, c'est Fernando Mitonga. Je suis à Manono. Je voulais, parce que vous m'avez donné 45 secondes, mais j'avais beaucoup à faire maintenant. Ce que je voulais vous demander, là-bas, la semaine, les deux semaines passées, on a reçu les dégâts des éléphants vers le village de Muyumba. Ils ont tué même une personne. Ils ont mangé même le champ. Et ils ont commencé même à faire tomber même le palmier. Ce que je voulais demander à l'invité, est-ce que l'État est au courant de venir intervenir rapidement aux dégâts que les éléphants ont fait au niveau de Muyumba? Parce que il y a aussi les familles. Ici à Manon, on est pauvre et il se nourrit au niveau de l'agriculture parce qu'il avait son champ, le champ là où il cultivait, le défunt a son
oui, marathon. Voilà, c'est la question de savoir comment là, corriger tous ces dégâts. Dommage, Fernando, l'invité a pu noter le village Muyumba. Je reviens à vous, M. Jeff Matilanga. On va terminer par là, mais vous allez quand même nous dire, parce qu'il y a Étienne qui voulait savoir les bilans de nos aires protégées. Je crois qu'il y a une mission qui a été effectuée dernièrement, c'était les experts de l'ICCN étaient à Istanbul. En bref, c'est pour savoir depuis que tout a été fait, ou en ce moment aujourd'hui, dans notre politique de conservation de ces aires protégées, un peu un mot rapidement ce qui venait d'être dit par les compatriotes.
Parce que au sein de la politique, en fait, elle se résume juste en un ou deux mots. La politique, c'est celle d'étendre l'étendue des aires protégées, de faire passer, en fait, la volonté du gouvernement, aller de 13% jusqu'à autour de 15 à 17%. Donc, c'est consacré dans la loi jusqu'à aller à 15%, mais il y a la volonté du gouvernement après Nagoya, c'est qu'il faut aller jusqu'à 17% dans le cadre de politique de changement climatique, où en fait vous avez suivi les déclarations du ministre de l'Environnement, pas du gouvernement, des eaux de l'Environnement par rapport à la politique du gouvernement pour la COP21 qui s'était tenue à Paris. Et donc, pour le moment, nous sommes à autour de 13,35.
Mais il y a plus. Il est tombé la déclaration politique par rapport à la 40e session
de ce qui concerne la 40e session. La session, en fait, concernait de participer à une forte délégation de la RDC, composée par les ministères de l'Environnement, de l'ICSN, du ministère du Tourisme. En fait, pour aller participer à cette 40e, c'est que la retombée, c'est qu'on est arrivé. Disons, l'objectif d'abord, c'est présenter l'état de conservation de nos 5 biens, ou bien de nos 5 aires protégées qui sont inscrits comme patrimoine de l'humanité. Et que donc, il faut faire chaque année l'état des lieux. Quel est l'état des lieux? L'état des lieux n'est pas aussi bon. C'est-à-dire, il est important qu'il y ait des efforts qui soient entrepris et que la délégation est parvenue à obtenir une décision qui consiste à l'envoi d'une mission conseil pour essayer d'apprécier les efforts qui sont déployés par le gouvernement pour certains de ces biens, notamment particulièrement le parc national de Virunga, où il y a des progrès significatifs par rapport au degré de dégradation qui était constaté il y a 5 ans.
Voilà. On ne peut pas aller plus loin, mais c'est pas la dernière émission. Vu l'importance de la matière, on pourra revenir. Merci à toute l'équipe pour la production de ces magazines cette semaine, la mise en état sur Paris et Sylvia Gala. On se retrouve le lundi pour un autre numéro. Et nous laisse à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.